Je me rappelle.
Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditeurs, et bien aujourd'hui c'est Martine Delhomo qui se souvient. Bonjour Martine.
Bonjour.
Martine, on peut dire qu'aujourd'hui le monde est votre jardin.
Le jardin est mon monde.
Expliquez-moi.
Alors depuis une dizaine d'années, je suis conseillère, formatrice en agroécologie, formatrice aussi en permaculture. De façon indépendante, je suis auto-entrepreneuse. Et je donne donc des conseils pour la conception, le réaménagement des jardins vivriers.
Vivriers, c'est-à-dire
C'est des jardins qui produisent de l'aliment.
De l'alimentation.
Donc essentiellement pour l'auto-alimentation, c'est-à-dire jardin familial. Mais ça peut être aussi des micro-fermes. Parce que l'idée de la permaculture et de l'agroécologie, c'est l'idée de l'autonomie des agrosystèmes, entre autres.
Donc aujourd'hui, vous réalisez votre rêve ?
En fait, j'ai trouvé ma vocation. Enfin, j'ai trouvé ma vocation. Vraiment là où je m'exprime totalement.
Ce qui n'a pas été le cas au départ ?
Ça n'a pas toujours été mon cas. Déjà, je suis une fille.
Expliquez-moi.
J'ai la fille de mon père, entre autres. Bien sûr, j'ai une maman. J'ai eu une maman.
Ce qui veut dire ?
Mais ça veut dire que j'étais le premier enfant... d'une famille où il y a deux enfants. Le premier enfant, vraiment désiré. 3 ans après, j'ai eu un petit frère, mais qui est arrivé sans être vraiment voulu. Et donc, je suis l'héritière légitime de mon père.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire que mon père a projeté quelque chose pour moi.
Qu'est-ce qu'il a projeté ?
Il a projeté un peu ce que lui n'avait pas réussi à faire.
Et qu'est-ce qu'il n'avait pas réussi à faire ?
Lui, il voulait être journaliste, il voulait être dans le verbe, il voulait raconter des histoires, mais aussi témoigner. Il voulait pouvoir... Il était éloquent, mon père, hein, donc il savait parler, il savait transmettre. Mais quand on est en enfant, quand on a 15 ans à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc il est 31, donc de février 31, il avait 14 ans à la fin de la guerre, et bien on n'avait pas le choix, on prenait le métier, là en l'occurrence, la pâtisserie de ses parents.
Est-ce que des peurs peut-être l'avaient empêché de réaliser ce qu'il voulait, lié à la guerre ?
Avec le recul, aujourd'hui, avec ce que je sais, avec tout ce que j'ai pu analyser de la vie de mon père, je pense qu'en fait, il était terrorisé. Mon père a eu peur, il a eu très très peur. Évidemment, il a vécu des moments très intenses pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense aussi qu'il a vécu des terreurs beaucoup plus jeunes.
Il vivait où ?
Alors, mon père était pâtissier à Bourg-en-Bresse, en face de l'hôtel Terminus, aujourd'hui je crois qu'il a changé de nom, mais dans la rue de la Gare, rue Alphonse Baudin. Et il avait hérité, donc il a repris, il n'a pas hérité, il a repris la très belle pâtisserie de son père, qui lui-même l'avait achetée dans les années 30 à un autre pâtissier. Donc il était pâtissier, mais il était mycologue aussi. Il disait « je suis pâtissier-mycologue ».
Quelle était sa passion, en fait, la pâtisserie ou la mycologie ?
En fait, il était naturaliste, il s'intéressait beaucoup à la nature. Alors, en tant que cyclotouriste, parce qu'il était cyclotouriste, il faisait beaucoup de sport, mais surtout du vélo. En tant que cyclotouriste, il avait l'occasion, sur les pas de Charles Antonin, parce qu'il y a toujours le club Charles Antonin, je crois, sur les pas de Charles Antonin, il a découvert les paysages de l'Ain, enfin, à bicyclette. Et ces paysages sont composés d'arbres, d'oiseaux, d'animaux, mais aussi de champignons. Et il s'est intéressé très tôt à déterminer quel est cet arbre, quel est cet animal, quel est ce champignon.
Donc, votre père était très proche de la nature, comme vous l'êtes aussi. Alors, qu'est-ce qu'il projetait sur vous qui vous empêchait de vous accomplir ?
En fait, mon père, c'est vrai qu'il a subi un peu son métier. Et comme c'était quelqu'un de très inquiet et qu'il était handicapé des chiffres, Heureusement, il a épousé une comptable, secrétaire comptable, et c'est ma mère qui prenait en charge justement toute la gestion comptable et financière et qui le rassurait là-dessus. Mais il a toujours eu peur de ne pas y arriver. Il a toujours eu peur de manquer, mon père. Et ça, c'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale, des restrictions, comme ma grand-mère disait. Donc, j'ai perdu le fil de la question.
Il a toujours eu peur de manquer, vous dites.
Oui, peut-être... il a eu peur de manquer. Il a vu aussi des assassinats, il a vu des choses... il a vu le mauvais côté de l'humanité pendant la résistance. Et pendant la... faut savoir que la boutique, donc la pâtisserie Mania à l'époque, faisait face à un hôtel qui avait été réquisitionné par les Allemands. C'était devenu la commandanture. Que sur la gauche, en sortant de la pâtisserie, il y avait l'ancien chapelier qui était chef de la milice et que le temps des cerises, qui était à l'époque l'hôtel du commerce, hôtel-restaurant du commerce, était occupé par la Gestapo.
Ah, sacré
donc,
contexte.
Il y avait il était au centre d'un triangle qui était forcément
compliqué.
Délétère.
Et oui. Il avait des missions ?
Alors, c'était un des plus jeunes résistants à défiler rue Alsace-Lorraine, parce qu'il avait pour mission de convoyer, en tout cas c'est ce qu'il m'a raconté, de convoyer le courrier de la compagnie Chaplut, il appelait ça la compagnie Chaplut, jamais retrouvé de traces dans les témoignages des résistants qui ont bien voulu en parler. Donc, ce courrier était déposé dans la boîte aux lettres de la pâtisserie. Il roulait le courrier dans le cadre sous sa selle de son vélo et au prétexte d'aller au ravitaillement, dans le Revermont, il allait livrer ce courrier.
Donc, il a eu une vie où la peur a souvent régné. Oui. Et cette peur, il vous l'a transmise en vous empêchant.
Alors, comme lui, il a eu très peur, mais quand même, il a eu toute l'énergie nécessaire pour lutter.
Oui.
Il n'a probablement pas voulu que j'hérite de situations angoissantes.
Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu que vous fassiez, que vous aviez envie de faire ?
Alors, quand j'avais 8 ans, je voulais être la calasse. Quand j'ai entendu chanter la calasse à la télé, j'étais subjuguée. Je chantais pas mal, mais j'étais pas la calasse. Donc ça, j'ai très vite laissé tomber. Et puis aussi, j'ai eu le bonheur de passer des vacances dans un des plus beaux villages au bord de l'Ain, à Bolozon, et découvert l'agriculture traditionnelle. Et pour moi, c'était la petite maison dans la prairie. Et je voulais être paysanne, comme eux, avoir des vaches, des cochons.
Vous vouliez mettre les mains dans la terre.
Je voulais être agricultrice.
Et votre père s'y est opposé.
Alors, il a dit... Il ne me l'a pas dit de façon aussi brutale, mais il m'a dit... d'abord, je voulais faire les beaux-arts. Il m'a dit, mais ça, tu ne gagneras pas un rond, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai fait des études agricoles. Ça, il a bien voulu me laisser faire parce qu'il y avait quand même le boom du conseil agricole via les chambres d'agriculture. Parce qu'on était en plein boom de l'agriculture productiviste. Il y avait du job pour vendre des intrants à l'époque.
Eh oui. Alors, Je crois comprendre qu'il vous préférait dans un bureau.
Voilà, alors que moi, je voulais être paysanne, je voulais avoir une ferme, je voulais élever, je voulais être la pauvre de service qui produit des aliments.
Et vous êtes retrouvée dans un bureau.
Alors, finalement, j'ai épousé un ébéniste qui n'avait pas du tout ce projet de vie. J'ai eu d'abord des enfants, j'ai d'abord élevé des enfants. J'étais assistante maternelle, d'ailleurs, pendant 6 ans. Et puis, là, j'ai pu créer un jardin. Là, j'ai eu donc laissé mon travail salarié en tant que salarié agricole, parce que j'ai été salarié agricole, et j'ai créé mon premier jardin.
Vous avez créé votre premier jardin, votre père était encore vivant ?
Oui, mon père était très heureux d'avoir des petits-enfants, parce que lui s'était empêché d'avoir de nombreux enfants.
Alors, vous avez pu créer votre jardin, donc votre père ne vous en a pas empêché ?
Ben non, parce que quelque part, c'était aussi faire. Ça rentrait dans l'économie domestique. C'était une bonne chose de produire ses propres aliments. Et puis, c'était aussi sain de produire ses propres aliments.
Et vous avez créé votre propre jardin tout en conservant une activité à côté.
Alors, j'étais assistante maternelle pour mettre du beurre dans les épinards, parce que les épinards étaient au jardin, mais il n'y avait pas de beurre quand même dans le jardin. Et puis, très vite, dès que mon dernier fils a été autonome, J'ai cherché à me recycler. J'ai appris l'informatique et puis j'ai décroché un job de médiatrice culturelle au musée départemental du Revermont à Cuisiat, qui est bien connu pour aussi son potager verger conservatoire. Et donc là, mon appétence et mes compétences en jardinage et en connaissance des plantes ont retenu l'attention de mes recruteurs.
Donc là, vous avez pu entamer la carrière que vous souhaitiez.
Et oui, j'étais fonctionnaire et mon papa, il voulait que je sois fonctionnaire.
Et alors, votre père, il lui est arrivé un malheur?
Oui, il avait 82 ans, j'en avais 52. Il faisait encore beaucoup de vélo. Il a été fauché sur un rond-point par un gros camion. Les ronds-points devraient, pour les cyclos, c'est un vrai piège. Et donc, rupture de la fémorale, il est mort sur le coup. Et à ce moment-là, bon, c'était du brutal. Hein. Quand on m'a annoncé sa mort, tout le monde prédisait qu'il allait être centenaire.
En plus, à 82 ans, il était en pleine santé. Il était à fond.
Oui, il était à fond. Il venait juste de se remettre à peu près du décès de ma mère. Il était veuf depuis 6 ans. Et puis là, il a disparu. Et moi, je me suis retrouvée orpheline, vraiment. Ma mère était décédée, mais là, je me suis sentie orpheline. Et en plus, j'étais l'aînée de ma lignée. Donc, je me suis retrouvée tout en haut de la pyramide. Il n'y avait plus personne pour me dire ce que j'avais à faire.
Qu'est-ce que ça vous a provoqué?
Je me suis dit que c'était à 52 ans, il était temps que je m'éclate, que je fasse ce pour quoi j'avais été programmée, finalement, sur Terre. Enfin, j'ai ce sentiment d'être programmée pour... J'ai une mission, j'ai quelque chose à faire sur Terre.
Pour accomplir votre destin.
Ouais, c'est ça. Et surtout, faire ce pour quoi je suis douée.
Vous aviez déjà commencé.
Ah oui, oui, parce que finalement, grosso modo, j'ai toujours tourné autour. Et à 52 ans, moi j'étais déjà grand-mère. J'étais dans ma phase où j'avais envie de transmettre. Et transmettre par le conseil, par la formation, c'était idéal.
Et en mettant les mains dans la terre. Et donc là, vous avez pu réaliser concrètement ce que vous aviez déjà commencé, mais avec peut-être l'esprit plus libéré, c'est ça que vous entendez?
Et oui, parce que quand on a un père qui a été aussi prégnant hein, sur tous mes choix de vie, toujours dans le commentaire de mes choix de vie, toujours dans la transmission de son angoisse pour moi, parce qu'il a transmis son angoisse sur moi. Vous vous autorisez pas toujours, vous prenez des chemins détournés. Donc là, j'étais droite au but.
Et vous avez pu développer complètement votre entreprise, c'est ce que vous voulez
dire ? Alors, non seulement il n'y avait plus le poids, je dirais, psychologique, mais aussi j'avais l'aide matérielle, parce que mon père m'a transmis de l'argent. J'ai hérité de 12 000 euros pour pouvoir me former, démissionner de la fonction publique, prendre un an pour me former. Et puis ensuite, pendant 2 ans, j'ai défini finalement le métier que j'ai créé. Parce que dans le département de l'Ain, il n'y avait pas de formateur, conseiller en agroécologie et formateur et en permaculture destiné à la création de jardins vivriers. Ça n'existait pas. Et donc, grâce à cet héritage, j'ai pu me former. Finir ma formation, définir précisément mon projet professionnel et me lancer.
Quand vous pensez à votre père maintenant, vous pensez à quoi?
Je pense, j'ai de la tristesse encore. Parce que je pense que lui, il n'a pas pu avoir la joie que j'ai eue, moi, de m'accomplir totalement. C'est-à-dire que lui, il a été vraiment empêché. Et puis, il a gardé cette peur viscérale toute sa vie. Mais je pense que finalement, j'ai peut-être réalisé son rêve.
Est-ce que vous avez néanmoins quelques fragilités que vous lui devez?
J'ai beaucoup de défauts, surtout. Alors, j'affirme beaucoup. Je suis assez autoritaire dans mes déclarations. Je suis assez douée en mauvaise foi aussi. Je déteste ne pas avoir raison. Voilà, ça, c'est papa.
Peut-être que vous êtes lucide par rapport à ce que vous êtes, ce qui est une bonne chose.
Ouais, j'ai appris à me connaître à travers finalement l'analyse de ce que mon père a été. Comme il m'aimait beaucoup quand même, il m'aimait beaucoup et forcément je l'aimais beaucoup. J'ai tenté de le comprendre.
Donc vous avez appris à le connaître, vous avez appris à vous connaître. J'espère que les auditeurs ont appris à vous connaître et à se connaître eux-mêmes.
Ouais, ouais, c'est ça.
Je vous remercie beaucoup.
Aimez-vous.
C'est le mot de la fin. Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.